Bienvenue sur le podcast Job à bord. Au travers de reportages et entretiens inspirants, les actrices et acteurs liés au secteur maritime vous dévoilent leur parcours, expériences, anecdotes et conseils afin de vous guider et vous faire découvrir cet univers souvent méconnu. Alors sans plus attendre, rejoignons Richard Fernandez et son invité du jour.
Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Soukaina, une élève brillante de l'ENSM, l'École Nationale Supérieure Maritime, et elle est en troisième année. Alors, Soukaina a accumulé une expérience précieuse à travers ses différents embarquements, et elle est ici aujourd'hui pour partager avec nous son histoire, ses défis et ses moments marquants en mer. Préparez-vous à plonger dans le quotidien captivant d'une future officier de marine marchande. Bienvenue à toutes et à tous sur Job à bord. Soukaina, bonjour.
Bonjour Richard.
Bonjour Soukaina. Alors merci mille fois d'avoir accepté cette invitation sur Job à bord. Alors aujourd'hui, j'ai la grande chance d'avoir en ma compagnie une élève officier de la marine marchande.
Merci Richard. Je suis ravie d'être sur ta chaîne de podcast aujourd'hui. J'ai accepté l'invitation directement.
Ah, tu es mille fois bienvenue Soukaina. Alors Soukaina, peux-tu te présenter pour ceux et celles qui nous écoutent?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Zégari Soukaina, j'ai 23 ans et je suis élève officier polyvalente en troisième année à l'École nationale supérieure maritime de Marseille.
Alors, tu es à l'ENSM, hein, on rappelle l'École nationale supérieure maritime, et tu es à Marseille, c'est bien ça?
Tout à fait. Je fais les trois premières années à Marseille et ensuite deux ans au Havre. Et pour l'instant, ouais, je suis en fin de troisième année ici à Marseille.
En fin de troisième année, donc tu as déjà un petit parcours derrière toi.
Oui, on peut dire ça comme ça, tout petit.
Alors, tu vas nous expliquer, Soukaina, si tu veux bien, c'est un embarquement par année.
C'est ça, c'est exactement ça. On a chaque année une période d'embarquement pour embarquer. C'est une période un peu imposée par l'école. Donc, on a deux mois. En première année, on a quasiment tout l'été. Donc, on peut faire trois mois et ensuite... Généralement, la deuxième année et la troisième année, on a deux mois donc pour embarquer chaque année. Je suis polyvalente, donc c'est-à-dire autant je peux être autant au pont qu'à la machine. J'apprends les deux.
Ça, c'est un parcours qui est très intéressant, hein, polyvalence qui est très recherché en général.
Exactement, et surtout on est bien formé parce que on connaît, on va dire les bateaux, les navires dans leur entièreté finalement, puisqu'on est formé autant au pont qu'à la machine. Et après, c'est selon les envies de chacun, les sensibilités de chacun, de choisir derrière. On se spécialisera plus.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que ça m'intéresse, ton premier embarquement de stage? C'est une croisière d'expédition.
Exactement. Ouais, je suis partie donc en première année, fin de première année. J'ai fait trois mois à bord d'un paquebot, enfin d'un navire de croisière. J'ai fait l'Arctique. Je suis partie de la Norvège. J'ai fait tout l'Arctique. Le Groenland. Ensuite, j'ai fait un peu le Canada et voilà. Et ça, c'était un stage qui était riche, très très riche. Voilà, en première année, on arrive, on maîtrise rien. Finalement, on est là, on veut apprendre et en fait, tout est une découverte finalement.
Oui. Alors justement, lorsque tu arrives à bord, évidemment, c'est ta première expérience dans le vif du sujet, hein, dans la pratique. Alors, les officiers à ton égard, ils sont à côté de toi, ils t'aident, ils te chaperonnent un peu, ils t'expliquent, et ensuite, au bout d'un moment, ils vont te laisser faire toute seule certaines tâches. Tu peux nous expliquer un petit peu?
Ouais, bien sûr. Ben ça dépend vraiment des compagnies. D'une compagnie à l'autre, ça peut vraiment changer, ça peut ne pas être la même chose. Donc, mais généralement, quand on arrive à bord et qu'on est élève en première année, c'est plutôt difficile pour les officiers parce que eux-mêmes ils ont un service à assumer derrière et en plus, comment dire, on leur ramène un élève qui n'est pas opérationnel finalement. C'est du temps et il faut être extrêmement patient. Les officiers doivent être extrêmement patients avec les élèves de première année. Sur cette compagnie, rapidement en fait, t'es assigné à un officier. Donc tu le suis dans son quart, dans ton travail. Finalement, ouais, l'apprentissage en fait se fait plus comme il n'y a pas vraiment, l'officier n'a pas vraiment beaucoup de temps finalement pour être là et t'expliquer. On va dire que l'officier t'accompagne. On va vite te demander d'être opérationnel finalement. Donc un peu perdre cette place de moi je suis en apprentissage. Bien sûr, tu peux faire des erreurs, mais c'est vrai que quand on te demande d'être opérationnel, là c'est vrai que faire des erreurs. Mais après, je pense que c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est une façon aussi d'apprendre.
Oui, parce que j'imagine qu'également l'officier, que ce soit un lieutenant ou un second, il a aussi ses tâches journalières à effectuer.
C'est ça. Ouais, tout à fait. C'est déjà, c'est ouais, ils ont des plannings hyper chargés. Une journée d'un officier ou d'un second, c'est, on va dire, intense. Et surtout en croisière, notamment en croisière.
Alors, Soukaina, est-ce que tu avais un peu carte blanche, pas trop le trac dans ces moments-là?
Bah si, forcément. Forcément, parce que ouais, on nous donne des responsabilités quand même assez rapidement. Hein. Et derrière, ouais, on nous demande d'exécuter certaines tâches parfois et on doit le faire. Ça a été dit une fois, deux fois, on doit le faire. La personne n'a pas le temps de te montrer, de t'expliquer. Il faut que ce soit fait. Finalement, on est là et on sait même pas de quoi, enfin, qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais on sait, voilà, enfin, c'est de la débrouillardise. On essaye de se dépatouiller comme on peut. On fait des erreurs et après, on apprend derrière, ouais.
Et on ne peut pas se permettre d'être approximatif ou dans l'à peu près hein, dans la
Non.
navigation. C'est
Non,
tellement pointu qu'il faut être rapidement opérationnel et percutant et réactif. Hein.
totalement. Totalement, ouais. Et ça s'apprend. Ça s'apprend au fur et à mesure, au fil des embarquements, finalement.
Avec l'expérience, bien sûr, on ne peut pas être non plus au top dès le premier embarquement à naviguer, quoi.
Non.
C'est pas évident du tout. Alors ça, c'était dans un lieu magique, hein, c'était dans les zones polaires, c'est ça?
Ouais, c'était l'Arctique. C'était incroyable en termes de navigation, de découverte, faune, de flore, les gens à bord, les rencontres qu'on fait, parce que sur un navire de croisière, on n'a pas que le service pont, le service machine, on a le service hôtelier qui est composé de pas mal de personnes et tisser des liens et voilà, qui est une vraie vie à bord finalement.
Alors, c'était un embarquement de quelle durée?
C'était 3 mois. J'avais fait 3 mois l'été 2020, il me semble.
Et c'est des embarquements non-stop?
Ça dépend aussi de la compagnie et du bon vouloir, on va dire, des supérieurs
Et
globaux.
sur cette première compagnie-là, ça se passait comment?
Sur cette première compagnie, on était opérationnel 7 jours sur 7 jusqu'à la fin du contrat.
Ah, c'est lourd quand même, hein, ça fait des longues journées, dis donc. Hein?
Ouais, c'est faut vite se mettre dans le bain, hein, c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident. Surtout quand on débute, hein. Mais je pense que n'importe quel officier, n'importe quel commandant, n'importe quel second est passé par là. Il n'y a pas de raison que l'on y échappe.
Oui, parce que c'est quand même quelque chose qui nerveusement peut nous atteindre, hein, parce qu'il y a tellement de
Bien
responsabilités
sûr.
sur un navire, donc la fatigue, et heureusement, il faut être en mode alerte 24 heures sur 24, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et encore, nous, on est élèves, donc on a des responsabilités sans vraiment les avoir. C'est-à-dire qu'on nous responsabilise, mais c'est vrai que derrière, on n'a pas les responsabilités d'un officier. Voilà, s'il y a quelque chose qui se passe, par exemple, si on nous a demandé de faire un travail et qu'il a été mal fait, ça va être l'officier qui va prendre derrière parce que c'est lui qui est responsable exactement.
Deuxième embarquement, un peu la même configuration, t'as
C'est ça.
rencontré un peu la même chose, t'as retrouvé les mêmes gestes.
Ouais, exactement. Ouais, j'ai refait de la croisière. Je suis partie au soleil. Je suis partie en Polynésie pour mon deuxième embarque. Après, oui, c'est à peu près comme t'as dit les mêmes gestes. C'est pas les mêmes. On travaille pas avec les mêmes personnes, donc forcément il y a des différences. C'est pas la même navigation aussi. Hein. C'est pas le même équipage. Il y avait plus de monde sur le deuxième navire.
Tu t'es sentie plus confiante, plus à l'aise déjà.
Oui. Ah oui, totalement. On savait en fait. Tu sais dans quoi tu t'embarques finalement. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai pas changé mon deuxième embarque. Je voulais poursuivre un peu dans la croisière. C'était pour vraiment avoir une certaine continuité sur ce que j'avais appris pendant 3 mois. Parce que pendant 3 mois, quand t'arrives et que tu sais pas grand-chose, tu ne sais rien finalement. Même si bien sûr à l'école on a quand même de la théorie, mais la pratique à bord elle est vraiment tout autre. Hein. Je me disais il fallait que je poursuive dans ça pour que justement je me perfectionne, on va dire, dans ça, et pas que j'aille par exemple sur un porte-conteneur ou sur un autre type de navire, et que ce soit une autre navigation et encore une autre découverte. Je voulais vraiment que ce soit une continuité et ça m'a beaucoup aidé justement.
Oui, parce qu'on a le choix aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'élèves également que je rencontre qui font du long cours, hein, c'est-à-dire enfin des cargos.
Ouais, on a le choix aujourd'hui en tant qu'élève, on a vraiment, enfin, voilà, les compagnies. Et ils ont quand même pas mal de place, donc on choisit. Voilà, il y a du ferry, on peut faire du ferry. Enfin, c'est hyper vaste, hein. On peut faire du remorqueur, du porte-conteneur, de la croisière.
La plaisance.
De la plaisance aussi.
te donnent un coup de main, l'école, pour eux. Ils ont, bien sûr qu'ils ont des contacts, donc ils te dirigent un petit peu en disant, tiens, en ce moment, telle compagnie recherche, ou alors tu cherches de toi-même.
L'école nous donne des contacts, donc les compagnies maritimes, avec tous les contacts et les compagnies qui recrutent le plus. Et derrière, c'est vraiment, comment dire, c'est plus les anciens élèves, finalement, de par leur retour d'expérience, de par aussi leur connaissance, on arrive à se positionner plus ou moins dans ce qu'on veut faire.
Alors, la troisième année, c'était l'année dernière. Raconte-nous un peu quel stage as-tu effectué?
Alors là, j'ai complètement changé comment dire, d'environnement. J'ai fait du ferry. J'ai fait du ferry entre Calais et Douvres. Donc, c'était pas trop la Polynésie. Mais sur ces navires-là, ouais, j'ai énormément appris. Pas mal d'anticollisions. On est quand même dans un DST, donc il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Donc, les situations à gérer, un timing avec le chargement, les déchargements. Donc, tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de boulot et c'est hyper, hyper formateur derrière, ouais.
Il y a un stress qui est plus important, hein, parce que c'est quand même Calais, je crois que c'est le, si ce n'est le plus grand port
Ouais.
d'Europe de ferry, hein, de liaison entre l'Angleterre.
C'est plutôt stressant, mais c'est vrai que on n'a pas trop le droit de flancher ou quoi dans ces moments-là où on a un chargement à faire et qu'on a 55 minutes pour le faire, qu'on a un quart assumé derrière avec plein de bateaux qui nous foncent dessus. Mais à la fois, c'est stressant, mais c'est ce pourquoi on est là finalement.
Ah, parce qu'on rappelle la durée de traversée en général de Calais à Douvres, c'est 1 h 30 de traversée. T'es arrivé à gérer justement ce stress?
Moi, je dirais que c'est vraiment avec l'expérience. Et c'est vraiment avec l'expérience qu'on arrive à gérer ça. Je pense qu'en première année, on peut pas te laisser un quart ou un chargement, bien sûr avec l'officier à côté ou le second, hein, mais te laisser toi-même charger, faire ta séquence et prendre des décisions, enfin, de toi-même d'anticollision. Mais ouais, c'est vrai que ouais, je dirais que c'est l'expérience et aussi quand même le repos. Faut savoir profiter des moments qu'on a pour se reposer. Dormir, ça c'est super important pour récupérer derrière. La compagnie fait des rotations de 15-15 pour les officiers, hyper opérationnel pendant 15 jours. Et après, tu as 15 jours pour te reposer. C'est pas des rotations où tu es à 2 mois, 2 mois ou 3 mois, 3 mois, parce que là, voilà, je pense que ça piquerait beaucoup plus. Je pense même que ça serait quasiment impossible parce que les journées sont super, super intenses pour les officiers. Ouais.
Donc là, on parlait de navigation, donc de quart. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, puisque tu es dans la polyvalence, hein, on rappelle, tu es élève polyvalente. Est-ce que tu peux nous raconter un peu une journée type, ben, en machine, quelles sont les tâches qu'on te confiait?
Alors en machine, c'est vrai que c'est un peu moins, comment dire, on est moins dans l'opérationnel en machine finalement, on est plus dans la maintenance. Quand il n'y a pas de gros soucis qui se passent en machine, on fait des petites maintenances. Moi, quand j'étais à bord, j'apprenais des circuits, j'essayais de me repérer, parce que ça aussi, la machine, c'est super vaste, donc on peut y passer des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois, et toujours pas connaître les choses enfin, super bien, quoi. On faisait un peu de la maintenance et on accompagnait le pont dans l'appareillage, les manœuvres, finalement. Mais c'était pas mal de maintenance, et quand il y avait des grosses maintenances à faire, on faisait ça le samedi soir, et ça, c'était plutôt cool, on veillait un peu, entre guillemets, et le lendemain, bien sûr, on avait quand même... On commençait l'après-midi à 15h, il me semble, et 14h. Donc on avait 1 heure de sieste en plus. Et à ce moment-là, le samedi, on faisait vraiment, par exemple, un démontage de turbo soufflante ou des choses comme ça, quoi, qui prenaient plus de temps. Alors en machine, il y a aussi des cas pour les officiers, parce que c'est des navires où il faut qu'il y ait un officier au PC machine, on va dire devant les écrans, 24 heures sur 24. Le navire fait des allers-retours jour et nuit. Donc voilà, faut être là pour les manœuvres. Et il est accompagné d'un ouvrier qui, lui, derrière, fait ses rondes toute la nuit et là, en cas de souci, pour assister l'officier chef de quart en machine.
Et alors tout ça, ça correspondait à l'idée que tu te faisais de la marine? Tu as trouvé ça, enfin, plus attrayant encore, tu es encore plus motivé, ou c'est l'idée que tu t'en
Ouais,
faisais de la marine marchande?
ouais. En fait, j'avais, comment dire, comme j'étais pas du tout, je suis pas du tout de ce milieu-là à la base, j'avais vraiment pas de connaissances, de repères vis-à-vis de ça, de la marine marchande. Et du coup, j'avais pas vraiment d'idée, finalement, de ce que c'était le métier. Je savais que c'était ce que je voulais faire, parce que quand on nous pose la question pourquoi la marine marchande, je pense qu'on sait pas tous vraiment comment l'expliquer, parce qu'on le ressent. C'est là où on se sent le mieux, finalement, sur plusieurs points. Et je me faisais pas trop d'idées vis-à-vis de ça. Je savais qu'il y avait beaucoup de responsabilités, que le travail il était intense. Et finalement, ouais, ça me plaît parce que on a un peu tout le temps, on doit être un peu sur le qui-vive tout le temps. Bien sûr, tout n'est pas toujours hyper speed, hein. Ça dépend aussi des compagnies maritimes et de l'exploitation du navire. Enfin, en tout cas, moi, ça me correspond.
Alors, je t'ai pas posé la question et ça m'intéresse. Justement, suite à tes études, tu as fait quoi, quoi? Enfin, tu as fait des études?
Moi, du coup, je suis née au Maroc et j'ai grandi au Maroc. Donc, j'ai passé mon bac là-bas. Puis, à la fin de mes études, enfin, de ma terminale, à l'époque, il y avait le concours pour rentrer à l'ENSM. Cette année de terminale, je l'avais passé ce concours-là. Et je l'avais eu. Et en même temps, en parallèle, j'avais postulé dans des écoles d'ingénieurs. Et au moment où il fallait faire un choix, à la fin de l'année de terminale, il fallait faire un choix. Et je sais pas, les circonstances ont fait que je me suis dirigée vers une grande école d'ingénieurs où j'ai fait 2 ans de classe préparatoire. Et après, à la fin de cette deuxième année, je me voyais pas poursuivre là-dedans. Enfin, ça me, comment dire, je travaillais énormément parce que c'est la classe prépa. Donc, on travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je travaillais vraiment comment dire, pour ne pas échouer, pour réussir. Mais finalement, est-ce que je travaillais parce que j'aimais ce que j'étais en train d'apprendre? Ben, je me suis posé la question et je me suis dit, ben, non, finalement. Donc après, à la fin de la deuxième année, j'ai repostulé à l'ENSM et là, c'était via Parcoursup. Et du coup, voilà, on m'a prise. C'est sans regret depuis.
Sans regret, un beau parcours, quoi. En fait, tout s'est enchaîné et dans le bon sens.
C'est ça. Et quand on est en terminale, on sait pas trop ce qu'on... On sait un peu ce qu'on veut faire, mais on sait pas trop. Et on écoute beaucoup les profs qui nous disent, oui, il faut aller vers des formations généralistes. Voilà. En plus, c'était une école quand même qui était super prestigieuse, un groupe d'école d'ingénieurs qui était super prestigieux. Donc, il y avait un peu ça. Ça peut t'ouvrir plein de portes. Faut pas se fermer les, faut pas, voilà, se mettre des barrières après le bac. Voilà. Du coup, on écoute un peu ça et on se dit, ouais, pourquoi pas. Enfin, après, ça a été hyper formateur. Hein. Là-bas, j'ai énormément appris à travailler. J'ai appris à travailler, comment dire, dans des conditions de fatigue extrême. Et c'était super intense. Et donc, ça a été un apprentissage, ouais, malgré tout. Hein,
Et dans la famille, il n'y a personne qui est dans le maritime.
quand même. Non, personne dans le maritime,
C'est
ni dans
génial, ça.
l'ingénierie.
C'est génial, ça. Et la réaction, enfin, de la famille, ça a été de la fierté, j'imagine, non? Et puis une surprise, peut-être, que
Ouais.
tu t'es dirigé là-dedans?
Non, pas tant une surprise parce qu'il savait que j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu casse-cou, quoi. Voilà, j'aimais un peu sortir des sentiers battus. Et on m'a toujours soutenue dans mes choix, que ce soit l'ingénierie, que ce soit... Parce que aussi, avant de faire la marine marchande, je voulais faire la marine nationale. Et là, bon, c'était un peu plus compliqué parce que c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et est-ce que j'étais prête à faire ça? Même moi, personnellement, je pense pas. Enfin, ouais, non, du coup, c'est pour ça que je me suis pas orientée vers la marine nationale. Mais on m'a toujours soutenue et c'est grâce à eux que j'ai pu prendre, on va dire, ces décisions-là aussi. Hein.
Oui, et puis la marine nationale, c'est des embarquements qui, avec une durée plus
Ouais.
importante, hein.
Exactement.
C'est
Ouais.
plus du long cours que. Eh bien, c'est parfait, Soukaina. Alors, je crois que tu as une petite anecdote qui t'est arrivée en zone polaire.
Situation qu'on doit gérer un peu soi-même et qu'on sait pas trop ce qui est en train de se passer, mais on est là, quoi. Ben, c'était en Arctique. Mais c'était un jour où il y avait, enfin, on voyait rien, la visibilité, elle était, je sais pas, peut-être à 10 mètres. Et j'étais sur un zodiaque, donc j'étais en train de faire de prendre des sondes. J'étais élève expé, donc j'étais en expédition. Et du coup, j'étais en train de prendre des sondes, enfin, j'étais en train de faire mes relevés et je voyais plus rien. Et la VHF, la radio qui permet la communication avec le navire à longue distance, entre guillemets, marchait plus trop. Et du coup, je savais plus me positionner et je voyais plus rien, je voyais plus le navire. Et là, j'entends le glacier, en fait, pas qui s'écroule, mais une partie du glacier qui se détache. Ça fait un bruit, mais c'était super flippant. Et là, je voyais la mer qui commençait à...
À s'élever, à faire des vagues,
Ouais, c'est ça,
carrément, ouais.
exactement, exactement. Ouais, c'est ça, je voyais mon zodiaque qui commençait à bouger. Et là, je me dis, oulala, là, là, ça va être chaud. Et ça m'avait fait une super peur ce jour-là, mais c'était, voilà, ça fait des petites histoires à raconter.
Quelle expérience, avec le recul, oui, tu en souris, tu en rigoles, mais c'est vrai que sur le moment, ça doit être impressionnant.
Pour le moment, c'est complètement flippant, ouais.
Soukaina, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se diriger vers le milieu maritime, tu lui dirais quoi?
Petit conseil, je pense qu'il faut être, enfin, J'en suis même sûre, il faut être passionné. Il faut être passionné par ce qu'on fait. C'est un métier de passion pour qu'on puisse justement pas subir, on va dire, le travail qu'on fait et être hyper opérationnel, hyper investi. Je pense qu'il faut être passionné et être patient aussi. Patient avec soi-même parce que on peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir tout de suite. Donc il faut aimer ne pas savoir et chercher. Il faut de la patience et de la rigueur. Ça, ouais, de la rigueur, de la discipline. Ça, c'est indéniable.
Patience, rigueur, discipline,
Et passion.
à mettre dans la petite sacoche de boîte à outils et surtout voilà savoir que c'est un métier où les émotions sont quelquefois mises à mal avec le stress, la fatigue et que ça, avec l'expérience, on arrive à le gérer. C'est jouable.
Bien sûr.
Tu en es la preuve, Soukaina. Ce podcast va se terminer. Je te remercie mille fois d'avoir participé.
Merci, merci à toi. Merci de m'avoir donné, on va dire, cette chance, de parler de mon parcours et j'espère que ça pourra aider les futures, on va dire, générations qui se posent des questions et qui n'arrivent pas à trouver des réponses.
Ton futur s'annonce plein de belles surprises et de grands moments riches en émotions
Bien sûr,
encore.
bien sûr.
Je te souhaite bon vent, Soukaina, à bientôt et merci encore mille fois.
Merci,
Au revoir.
merci, merci beaucoup Richard. Au revoir.
Merci infiniment à Soukaina pour ce partage très enrichissant sur ses expériences en mer et ses différents embarquements qui pourraient, j'espère, vous inspirer, vous donner un aperçu de la vie en mer et de ce que cela implique au quotidien. Je rappelle l'École nationale supérieure maritime, un joli tremplin pour une belle carrière professionnelle. Cet épisode est maintenant terminé, restez sur le canal Job à bord et en attendant de vous retrouver très bientôt, je vous souhaite à toutes et à tous bon vent.